Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière? Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout. Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs, dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore. Vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu? Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez? Alors ne manquez pas cet événement incontournable. La place salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo CLÉDUGÌTE24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets salon et les billets salon plus mastermind. Retrouvez toutes les infos sur www.rdvlocationsaisonnière.com. Au singulier tout attaché.com rdvlocationsaisonniere.com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité.
Alors, j'ai beaucoup changé d'emploi, on a beaucoup dit de moi que j'étais instable, mais je pense en fait que j'avais pas trouvé ce qui me correspondait, et là je l'ai trouvé, et pour rien au monde, je ferais marche arrière.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode des Clés du Gîte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lise Dufetel, propriétaire depuis 2016 du sublime domaine de l'hôtellerie. Une envie profonde de changer de métier. Aucune expérience dans la rénovation et pourtant une ouverture un an seulement après leur investissement et un succès immédiat. Écoutez jusqu'au bout, je vous garantis que vous aurez la pêche pour le restant de la journée grâce à l'énergie que dégage Lise et le choix de sa musique. J'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2021, avec du bonheur à gogo, des rires à en avoir mal aux abdos et des rencontres inoubliables telles que celles que vous me permettez de vivre avec les Clés du Gîte. Continuons de nous soutenir chaque jour, car même si seul on va plus vite, n'oubliez pas qu'à plusieurs, on va plus loin. Mais je ne vous embête pas plus et laisse place à ma conversation avec Lise. Bonne écoute à tous. Bonjour Lise.
Bonjour Laura.
Bienvenue dans le podcast Les Clés du Gîte. Je suis très heureuse de t'accueillir. Donc tu es la propriétaire du domaine de l'hôtellerie qui se compose d'un gîte et de chambres d'hôtes en Normandie. Pour commencer, pourrais-tu te présenter et nous dire quelques mots sur le domaine, s'il te plaît?
Oui, donc moi c'est Lise, je suis mariée à Gilles, je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Noé et qui a 4 ans. Nous habitons effectivement tous en Normandie, alors on est dans le Calvados, on est à peu près à 15 minutes de Caen, 15 minutes de la mer, hein, à peu près à égale distance. Et on a effectivement depuis 2017 maintenant un domaine. Alors, on en discutera plus tard, mais aujourd'hui, on a 5 chambres d'hôtes et un gîte. C'était pas du tout comme ça au départ. Mais voilà, aujourd'hui, on est sur cette configuration-là.
D'accord. Alors, à quel moment de votre vie est venue l'idée de créer ce gîte, en tout cas le domaine?
Alors, je crois que c'est arrivé à un moment où il y a plein d'éléments qui se sont rencontrés. D'abord, j'ai rencontré mon mari. C'est pas anodin parce que déjà pour créer une entreprise, je pense qu'il faut que le couple soit ok, mais alors encore plus quand c'est une activité de chambre d'hôte de gîte, parce que c'est quand même dans son univers personnel, c'est quand même dans sa maison. Donc j'ai rencontré mon mari qui lui était complètement partant pour cette activité. Je crois que j'étais arrivée aussi au bout du chemin de mon expérience professionnelle. J'étais arrivée à un stade où il était grand temps que je parte, et puis j'étais enceinte, je suis tombée enceinte de ma fille, et je pense que ça a aussi bouleversé pas mal de choses, et ça m'a poussée à réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie professionnelle, et puis de ma vie en général, ce que j'avais envie de lui, ce qu'on avait envie de lui offrir. Et voilà. Et cette aventure est partie comme ça, avec des longs mois de recherche pour trouver la maison qui nous correspond le mieux, avec des doutes, des certitudes aussi. Et voilà. Et le projet a démarré comme ça.
Est-ce que jusque-là, vous aviez déjà réalisé peut-être une rénovation vous-même ?
Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais fait 2-3 murs de peinture dans notre appartement à Caen, mais c'était vraiment tout. Je pense qu'il faut un peu d'insouciance pour faire ce qu'on a fait. C'est bien aussi de ne pas trop savoir ce qui nous attendait. Je ne sais pas si on aurait été au bout. Mais oui, non, on n'avait pas du tout... On n'y connaissait rien, quoi. On connaissait rien en travaux, en artisans. Vraiment, on est parti de zéro. On a eu une chance incroyable, c'est de tomber sur des artisans vraiment super qui nous ont suivis sur toutes les tranches de travaux, hein, qui ont duré 4 ans et qui nous suivront encore demain si on a des travaux à faire. On leur a fait entièrement confiance. Ils nous ont aussi fait confiance et ça a été une chance incroyable. Ça a été véritablement un atout pour nous parce qu'on a pu se reposer sur beaucoup de choses, sur eux et puis apprendre aussi pas mal de choses. On a eu la chance aussi d'avoir des artisans qui nous ont appris 2-3 trucs, ce qui nous a bien aidé quand même.
Et comment tu avais élaboré le projet ou comment tu le concevais du coup au départ ?
Au départ, on était loin d'imaginer que ça allait devenir l'aventure que c'est aujourd'hui. Au départ, on avait souhaité faire uniquement 2 gîtes. Deux gîtes, donc dans un bâtiment annexe de la maison. Gilles gardait son emploi et moi, je réfléchissais même à prendre une activité à côté. Donc, tu vois, j'étais pas du tout dans la démarche d'en faire quelque chose de plus important. Et puis, en fait, on s'est complètement fait happer par cette vie, par le fait que ça ait fonctionné tout de suite. On a acheté la maison en 2016. Un an plus tard, on ouvrait les 2 gîtes et ça a fonctionné tout de suite, quoi. Et vraiment, on a été nous-mêmes très surpris de voir qu'on était complet sur plusieurs mois et de voir que même en hiver, ça fonctionnait. Et puis moi, je me suis très vite pris au jeu de rencontrer des gens. Alors, même si mon anglais n'est pas parfait, on a beaucoup d'étrangers. C'était parfois hasardeux, mais du coup, c'était... Enfin, voilà, je me suis vraiment prise au jeu. Et puis après, voilà, on s'est dit, on peut pas s'arrêter là, on peut pas ne pas développer l'activité. On avait les bâtiments pour, donc on avait de la place aussi pour créer autre chose. Donc on a créé ensuite 2 chambres d'hôtes qui ont très bien fonctionné. Et puis après on s'est dit, on va en faire une troisième. Puis après on s'est dit, ah ouais, donc il faudrait peut-être transformer les gîtes en chambres d'hôtes et puis recréer un autre gîte. Enfin voilà. Donc sur 4 ans, on a fini par faire 5 chambres d'hôtes, 1 gîte. On a refait totalement les extérieurs. Et puis on a également créé un espace commun pour nos voyageurs. Donc voilà, ça s'est vraiment fait... parce que moi, j'avais enfin trouvé ce qui me rendait heureuse professionnellement, quoi. Je pense que ces 10 années où j'étais salariée... Alors, j'ai beaucoup changé d'emploi. On a beaucoup dit de moi que j'étais instable. Mais je pense, en fait, que j'avais pas trouvé ce qui me correspondait. Et là, je l'ai trouvé. Et pour rien au monde, je ferai marche arrière.
Tant mieux pour nous, alors. Justement, oui, comme tu dis, j'avais remarqué effectivement que après les premières années, vous aviez donc d'abord les 2 gîtes que vous aviez transformés en chambres d'hôtes. Comment s'est fait cette transition ? Est-ce que c'est les retours de la clientèle ou les demandes qui t'ont fait évoluer le projet, ou c'était vraiment un désir pour toi de plus axer sur la chambre d'hôtes plutôt que le gîte ?
Alors, il y avait plusieurs éléments. Le premier, c'est que du coup, j'ai tellement aimé que mon mari s'est dit, moi aussi, je quitterais bien mon job pour travailler avec toi. Et donc là, il fallait que le domaine prenne une configuration qui nous permette aussi d'en vivre tous les deux.
C'est le cas actuellement ?
C'est le cas actuellement.
D'accord.
Donc, parce que je te parle beaucoup de bien-être, je me sens bien, c'est super, on discute avec les gens, mais il y a une vraie réalité économique derrière, il faut aussi qu'on en vive. Donc, on a réfléchi à comment réorganiser le domaine. Alors, à la fois physiquement, et puis en termes de prestations de services, pour que ce domaine nous permette d'en vivre tous les deux. Donc, on a décidé que le bâtiment principal, du coup, serait dédié exclusivement aux chambres d'hôtes. C'est pour ça qu'on a décidé de transformer les deux gîtes en chambres d'hôtes. Et puis, il y a un autre petit bâtiment annexe dans lequel on a fait le gîte, qui est plus indépendant. Et puis, je trouve que finalement, c'est plus logique, en fait, dans la configuration. On avait aussi réfléchi beaucoup à ce que nous, on recherchait, en fait, quand on partait en vacances, qui nous manquait ou ce qu'on aimait. Dans les endroits où on avait été, et on a un domaine qui est très familial, on a une clientèle qui est très familiale, et on voulait des chambres qui soient suffisamment grandes pour accueillir des familles. Et donc la transformation des gîtes en chambres d'hôtes, c'était parfait parce que ça nous permet d'avoir des suites, ça nous permet d'avoir des chambres qui ont des espaces séparés pour que chacun ait son intimité dans la famille. Donc voilà, c'est tous ces éléments qui ont fait qu'on a décidé à un moment de transformer les gîtes en chambres et puis d'aller au maximum de ce qu'on peut faire en chambres d'hôtes, puisque légalement, c'est 5 chambres d'hôtes maximum. Donc là, on est au taquet de ce qui est possible.
Justement, ça faisait partie de mes questions. Comment vous avez fait le choix du nombre de couchages? Parce que je trouve que c'est toujours un peu difficile de se dire, bon, ben, dans cette chambre, elle est assez spacieuse, on peut peut-être mettre 3 couchages, ou oui, mais ça manque de pertinence, ou des choses comme ça. Comment vous vous êtes positionné sur cette décision?
On savait que de toute façon, on était sur légalement maximum 5 chambres, 15 personnes. Donc déjà, c'était le max de ce qu'on pouvait faire. Après, on a essayé d'avoir à la fois des chambres qui soient pour des couples, et puis à la fois des chambres qui soient pour des familles. Donc, voilà, on essayait de garder. On a 3 chambres pour 4 et 2 chambres pour 2. On a fait aussi en fonction de la clientèle qu'on avait déjà reçue. Voilà, ça nous a permis vraiment de nous positionner, je pense, au plus juste. Alors, même si cette année est un petit peu particulière, ça nous a quand même permis d'avoir un retour sur cette nouvelle organisation, parce que finalement, on a fini les travaux en 2019. Donc, cette année était censée être une année test pour nous. C'est un test un peu bizarre, mais. Voilà, on a quand même bien travaillé cet été, ça nous a permis d'avoir un retour sur nos choix, et a priori, ça correspond bien à ce que les gens, en tout cas notre clientèle recherche.
Est-ce que pour les travaux, tu as fait appel à un architecte, architecte d'intérieur même, ou décorateur?
Non, pas du tout. On a fait appel à un architecte une fois, parce que comme on a refait faire des chiens ainsi, donc on avait besoin d'un permis, on est en zone bâtiment de France, donc voilà, j'avais pas envie de me lancer dans cette démarche, donc on a fait appel à lui uniquement pour ça, mais absolument pas pour la configuration du bâtiment. Alors aussi parce que, je te disais tout à l'heure, on a eu des artisans super, et qui ont aussi su nous conseiller sur des choses techniques de stabilité, de pure porteur, voilà. On a aussi été hyper bien conseillés là-dessus. Donc, j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de faire appel à un professionnel parce qu'on était hyper soutenus déjà par nos artisans. Et puis, pour la déco, je me suis découvert une passion aussi. j'aimais beaucoup ça avant, mais alors là, je crois que là, je m'amuse, et puis je me vois évoluer depuis 4 ans. Ce que je faisais il y a 4 ans, c'est pas du tout ce que j'ai fait là sur les dernières chambres. Et alors là, pour le coup, je m'éclate et c'est un vrai plaisir. Donc voilà, j'apprends beaucoup aussi de ce que je peux lire, de ce que je peux voir aussi sur Instagram, sur Internet. Voilà, c'est pas mon métier, donc je fais sûrement pas aussi bien qu'un professionnel, mais en tout cas, je m'éclate. Et les clients ont l'air ravis. Donc voilà, on est assez autodidacte, en fait.
Comment tu as procédé justement pour la déco et l'aménagement? Est-ce que tu fais des dessins, des croquis? Est-ce que tu essayes de faire un univers pour chaque chambre? Est-ce que tu as des petits des astuces ou des conseils à nous partager pour les meubles?
Alors, tout est dans ma tête. Tout est dans ma tête avec ce gros stress, mais je pense que je dois pas être la seule. Le jour où on met tout en place et où je me dis, ça se trouve, ça va être horrible. Et non, ça rendait à chaque fois pas trop mal, donc j'étais contente. Mais il y a toujours ce petit stress de se dire, bon, je l'ai imaginé comme ça, mais en fait, ça va peut-être pas donner comme je voulais. Bon, ça a été, il y a des fois eu 2-3 remanipulations, mais non, j'ai tout dans la tête. Je m'inspire beaucoup, je chine beaucoup, mais pas que. Voilà, les meubles, je les ai autant achetés dans des grosses enseignes que des petits créateurs, que de la Chine en direct, ou même de la Chine sur Instagram. J'ai découvert ça cette année, Donc c'est vraiment un mélange de tout. Mon mari aussi s'est découvert une passion pour la fabrication de meubles, donc c'est super. Je lui fais mes commandes et il les fabrique, donc ça c'est top.
Ça tombe bien.
Oui, ça tombe plutôt très bien. Du coup, ça lui donne aussi des idées de plus tard, de se dire tiens, ça rend pas mal, ça fait pas mal. Donc voilà, c'est vraiment un melting pot de tout. Ouais, je me ferme à rien, ni à aucune enseigne d'ailleurs. Voilà.
Et en termes de budget, justement, donc il y a le plus gros, j'imagine que ça a été la grosse partie travaux. Oui. Mais à l'intérieur de ça, est-ce que tu avais bien pris en compte justement les aménagements, il faut une literie de qualité, voilà, toutes les dépenses annexes qui sont un peu au-delà d'une utilisation en tant que particulier, je veux dire. Et qu'est-ce qui englobait un petit peu votre budget ?
Mais nous, en fait, tu vois, au départ, on partait sur 2 gîtes. Donc forcément, le budget de départ n'était pas du tout le budget final, puisque pendant 4 ans, on a fait tous les ans des tranches de travaux. Non, honnêtement, on n'avait pas du tout pris la mesure du budget au tout début. On a une banque qui est incroyable et qui nous suit, je ne sais pas comment, mais qui nous suit à chaque fois. Non, le budget n'était pas du tout le budget. Le budget final n'était pas du tout le budget initial. Aussi parce que on n'avait pas du tout pris l'ampleur de tous ces travaux. Voilà. Les budgets, tout dépend du bien que tu achètes. Tout dépend. Tu vois, souvent, des fois, j'y pense. Je me dis, si on avait fait les chambres dans la maison, c'est sûr que le budget aurait été beaucoup plus faible. Voilà, l'investissement aurait été moindre. Tu vois, tout dépend vraiment du bien au départ, de son état. Nous, le bâtiment, il n'y avait rien. Hein. Il n'y avait ni assainissement, il y avait de la terre battue au sol, il n'y avait rien. Donc, on est parti vraiment d'une coquille vide. Alors qu'on peut aussi acheter des domaines où il y a déjà, tu vois, il y a déjà une base, il y a déjà quelque chose qui permet d'avoir...
Oui, où ce sera plus un aspect des décorations... As-tu fait appel à des partenaires pour la literie, le linge de maison, les produits d'accueil ou du petit déjeuner, par exemple ?
Non. Non, mais c'est des choses qui pourraient venir. C'est des choses qui, voilà, auxquelles je pense en ce moment, effectivement, de mettre en avant des marques, alors locales, hein, on essaie quand même de faire travailler aussi nos voisins et de les mettre en avant sur le domaine. C'est vrai que je fais peut-être les choses à l'envers, je sais pas, mais en tout cas, oui, c'est des choses que j'aimerais faire maintenant, que j'ai pas encore fait pour l'instant et que j'aimerais mettre en place.
Pour exploiter en maison d'hôte, est-ce que tu as été dans l'obligation d'obtenir une licence boisson ou une licence restaurant ?
Alors, oui, parce qu'on vend de l'alcool et de la nourriture. Mais je ne crois pas que ça soit obligatoire à partir du moment où tu n'en vends pas, de mémoire. Je sais que c'était obligatoire pour les tables d'hôtes. Alors nous, on ne fait pas vraiment table d'hôtes. On propose des planches, charcuterie, fromage, des raclettes normandes, des choses comme ça. Moi, je l'ai passé. J'ai passé le permis d'exploitation et j'ai demandé une licence à la mairie. Une licence petite restauration que j'ai eue sans problème.
C'est une sorte de test théorique. En quoi ça consiste ?
Alors en fait, le permis d'exploitation, c'est une formation. Alors le permis d'exploitation classique pour la restauration, il me semble que c'est 3-4 jours. Et ils ont fait un permis d'exploitation spécifique loueur de chambre d'hôte. Donc ça dure à peu près une journée, je crois, de mémoire. Ça doit être 7 heures de formation. Voilà, à la fin, tu as un petit test basique, hein, sur ce que tu as vu sur les 7 heures, et puis ça te permet de demander une licence en mairie. Alors nous, on a demandé une licence petite restauration parce qu'on ne vend pas d'alcool fort, mais peut-être qu'il est possible de demander une licence 4, là je ne sais pas, mais en tout cas nous, on l'a demandé, oui.
Et en dehors de cette formation, est-ce que tu as fait le choix de faire peut-être un stage en immersion ou de contacter d'autres propriétaires pour leur poser toutes les questions que tu avais ? Comment tu as fait un peu tes recherches pour savoir tout ce qui impliquait l'ouverture d'une maison d'hôte ?
Pour tout ce qui a été techniques, c'est-à-dire fiscales, juridiques, moi, je me suis toujours approchée des professionnels, en fait. J'ai fait appel principalement à un expert comptable. Tu vois, là, Gilles me rejoint sur l'activité. Je pense qu'on va repenser le statut et je pense qu'on va aller voir un avocat en droit des sociétés. Je vais toujours à la source de l'info. Parce que j'ai pu passer des heures sur Internet à jamais trouver ce qui me correspond. Ça peut parfois être chronophage et un peu déprimant parce qu'en plus, ça dépend tellement de la situation maritale, situation professionnelle du conjoint, les investissements. Enfin, il y a tellement d'éléments qui sont extrêmement personnels que voilà, moi j'essaie toujours d'aller voir directement à la source. Alors oui, effectivement, c'est un coût parce que voilà, faut payer des honoraires, mais je pense sincèrement que ça les vaut au final. Ça évite d'aller chercher l'information un peu partout et puis surtout, on a une information sûre. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait sur la création de l'activité et puis sur le choix du statut. Et voilà.
Pour le lancement, est-ce que tu as fait le choix d'être affilié à un organisme de classement ?
Alors, au tout départ, pour les deux gîtes, on avait fait une demande de classement en étoile. Alors, c'est Atout France, hein, c'est le classement des campings, des hôtels, etc. Honnêtement, nous, ça ne nous apporte pas grand-chose en termes de clientèle. Le seul atout que nous, on y voit, mais après, c'est peut-être différent dans d'autres régions, c'est la taxe de séjour qui est moins chère quand on est classé en étoile que lorsqu'on ne l'est pas. Alors après, je sais que la taxe de séjour, c'est différent selon les régions, mais nous, en tout cas, c'est le cas. Donc, le dernier gîte n'est pas classé, mais je vais le faire parce que les gens paieront moins de taxes de séjour que sans classement. Mais honnêtement, nous, ça ne nous a pas apporté grand-chose. Et puis, je t'avoue que je suis plutôt en ce moment dans une démarche d'essayer de me détacher des plateformes de réservation, quelles qu'elles soient.
Des labels également, ou tu as un autre point de vue sur les labellisations ?
Alors, on ne s'est jamais fait labelliser. Et du coup, moi, j'en vois pas l'utilité à mon niveau, mais peut-être que tu auras d'autres personnes qui te diront que c'est super. Et du coup, je suis prête à entendre aussi leur expérience sur le sujet. Nous, honnêtement, je vois pas bien ce que ça nous apporterait, nous, à notre niveau. On travaille déjà avec des sites qui sont plutôt bien. Instagram fonctionne extrêmement bien. Notre site à nous aussi.
Instagram est source de demande de réservation, du coup.
Ah oui. Ouais, j'ai découvert ça il y a peu de temps. Alors, je suis pas du tout issue de la com ou du marketing, donc c'était pas du tout mon univers. Et puis au premier confinement, comme on pouvait rien faire, on s'est dit bon. Comment on pourrait quand même faire avancer l'activité sans pouvoir avoir de clientèle. Et du coup, moi, j'ai décidé de me pencher un petit peu sur Instagram. Et alors là, oui, j'ai découvert déjà une communauté hyper bienveillante, j'ai trouvé, et une vraie clientèle. Alors là, pour le coup, j'ai été extrêmement surprise d'avoir des réservations en direct sur Instagram très régulièrement. Ça prend une part très importante de nos réservations.
En ce qui concerne ton quotidien, est-ce que tu peux nous décrire une journée type ?
Ouais, alors quand j'ai préparé nos échanges, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais c'est un métier de fou en fait. On passe notre temps à ça. Et c'était assez étrange de le poser sur un papier et de se dire, mes journées. Une journée type, tu veux que je te détaille vraiment les différentes phases ou...
Ah bah oui, le plus détaillé possible, mais à ta façon.
Le plus détaillé possible, ok. donc du coup, on se réveille assez tôt le matin, puisqu'il y a toute la gestion des petits déjeuners, préparation de petits déjeuners, mise en place, etc. On parlait d'Instagram, et tu vois, petite photo Instagram, petite vidéo qui va bien. Je t'en parle parce que mine de rien, ça prend aussi du temps de communiquer dans le quotidien. Ensuite, on a l'accueil des clients, l'accueil de nos voyageurs. Hein. Ça nous prend du temps parce que forcément... Alors nous, on ne prend pas le petit déjeuner avec eux. En revanche, on passe du temps à discuter avec eux. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier, je pense, c'est qu'on a aussi envie d'avoir du contact et d'échanger. Maintenant qu'on est deux sur l'activité, ça nous permet aussi à un moment de nous dédoubler pour attaquer la grosse partie de l'activité. C'est pas très glamour, mais c'est quand même le ménage et la préparation des chambres. J'ai calculé là pour nos échanges, mais c'est entre 5 et 6 heures par jour, ce qui est énorme. Je m'en rendais pas compte, mais c'est ce qui finalement nous prend le plus de temps au quotidien.
Et Gilles met la main à la pâte aussi pour le ménage.
Ah oui, on a chacun nos rôles. On a chacun nos rôles. Donc ça a été un soulagement de fou hein, quand il est arrivé. Alors on n'avait pas 5 chambres et un gîte hein, quand j'étais toute seule, mais on avait déjà un domaine un peu important. Et oui, ça a été un vrai soulagement quand il est arrivé pour travailler avec moi. Donc voilà, et puis après la partie ménage, voilà, il y a l'accueil des clients, et puis il y a de toute façon toujours des gens qui viennent nous voir, même la journée, pour nous demander des infos, pour discuter, pour voilà, on a une petite fille de 4 ans, je t'ai dit, on a une clientèle très familiale, donc c'est pas rare qu'on ait des enfants qui tapent à la porte pour jouer avec notre fille, donc voilà, c'est finalement toute la journée, on doit être présent quand même une bonne partie de la journée. Et puis après, fin de journée, bah, c'est l'accueil des clients, c'est la préparation du petit-déj du lendemain. On fait des planches de charcuterie et des raclettes normandes. Donc, c'est bah, voilà, gérer le dîner des clients. Voilà. Et puis, dans la journée, bah, y a la gestion des réservations, il y a le linge, le repassage. Il y a tout ça. Ce qui fait que ça fait des bonnes journées. Mais je pense que tu dois bien connaître... Tout ce que je suis en train de te dire, ça doit te parler, je pense.
Justement, est-ce que tu es aidée quand même avec des prestataires extérieurs pour certaines tâches spécifiques ?
On a une partie du linge qui part en pressing. Pas tout, mais une partie, genre les housses de couette, les choses qui sont impossibles à gérer. Voilà, et sinon, c'est tout. C'est tout. Sinon, c'est nous deux.
Même pour les extérieurs, au quotidien. L'entretien...
Oui, même pour les extérieurs, oui.
Est-ce que c'est le quotidien qui correspond à celui que tu imaginais en créant l'activité?
Bah en fait, c'est un peu cucu hein, ce que je vais te dire, mais je suis tellement bien dans cette activité que tout passe en fait. Je peux faire des journées de 15 heures, mais je ne le vis pas du tout de la même façon que mes jobs d'avant, où je travaillais sûrement moins. Donc je ne m'étais pas imaginé quoi que ce soit, mais en tout cas... Ça passe tout seul, quoi. Alors, je te dis pas qu'on n'est pas fatigué en fin de saison, bien évidemment, mais on le vit tellement pas de la même façon que ça reste même agréable, même sur des grosses journées, on le sent pas. Et puis, alors, on parle beaucoup du télétravail en ce moment. Nous, c'est un peu du télétravail permanent, quoi. On travaille à la maison, donc ça s'intègre aussi dans notre vie au quotidien et ça s'intègre plutôt bien, je trouve.
Vous avez un secret pour justement bien répartir vie pro, vie perso ?
Non, on n'a pas de secret, on se débrouille. On se débrouille, on fait comme on peut. Là, c'est vrai qu'on est encore sur les premières années, donc on travaille beaucoup et on se laisse peu de temps de repos, on n'a quasiment pas de vacances, voilà, mais c'est un choix, hein, je ne me plains pas du tout. Hein. C'est sûr qu'on va forcément réajuster les choses avec le temps parce que l'activité aussi prendra une certaine routine. Notre fille va grandir aussi, donc là pour l'instant on peut encore se permettre de partir un peu quand on veut. En grandissant forcément il y a quand même un rythme scolaire qu'il faudra suivre. Donc voilà, on se réajustera en fonction. C'est vrai que jusqu'à présent, donc Noé a 4 ans, quand elle était toute petite, finalement c'était plus facile à gérer parce qu'on la prenait avec nous, on la mettait dans son cosy ou avec nous, voilà, et finalement ça se gérait. Là, finalement, plus elle grandit, plus c'est compliqué parce qu'elle nous demande un peu plus. Donc voilà, bah, on a aussi de la famille, on a mamie, on a le centre aéré, on a les copains, et voilà, ça permet aussi de gérer le temps avec elle. Voilà, puis cette année, c'était un peu particulier, elle ne pouvait pas venir avec nous dans les chambres avec le Covid et tout, donc c'était aussi un peu plus compliqué pour elle. Elle avait du mal à comprendre pourquoi elle ne pouvait pas venir dans les chambres et nous aider à faire le ménage, même si c'est pas la salariée de l'activité, mais voilà, elle aimait bien venir avec nous. Là, c'est vrai que cette année, c'était un peu particulier.
Et quand on demande à Noé qu'est-ce qui est le métier de ses parents, elle répond quoi?
Alors, on lui a jamais vraiment... Enfin, je sais pas, tu vois, tu me poses une colle. En revanche, c'est assez rigolo parce que... elle dit souvent, quand elle joue, elle dit souvent, bon, moi, j'ai du boulot, hein. Je fais au boulot, donc tu vois, on sent qu'il y a des automatismes. Et alors, une fois, on l'a surprise en train de jouer avec une copine à elle, et donc, elle mettait des couvertures par terre, et donc, la petite fille lui dit, ah, tu fais un dortoir? Elle lui dit, ben non, je prépare les gîtes. Donc, tu vois, c'est assez rigolo, parce que elle a des automatismes. Pareil, les artisans, un artisan, elle sait ce que c'est, un plombier, machin, elle les connaît. Je vois bien ses autres copains et copines, les artisans, ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Donc c'est marrant, elle s'imprègne quand même de l'activité et de nous, ce qu'elle voit de nous, en fait. C'est assez rigolo.
Alors, si on regarde un peu dans le rétroviseur, quelle a été la plus grande difficulté à laquelle vous avez été confrontée depuis la création des gîtes et des maisons d'hôtes, quoi, des chambres d'hôtes?
Tu me poses une colle. J'ai pas eu la sensation. Non, je saurais pas te dire. J'ai pas eu l'impression d'avoir des difficultés. Non, vraiment. Vraiment pas. On a eu des moments de doute, on a eu des moments où on se disait qu'on était dingue d'investir autant d'argent dans un truc sans savoir si ça allait vraiment fonctionner. On s'est aussi dit des fois on est dingue de quitter notre job tous les deux, mais ça n'a jamais été une difficulté, quoi.
Et qu'est-ce qui te rassure justement au quotidien alors?
Ce qui me rassure au quotidien, alors je t'avoue que là cette année j'ai été rassurée sur cet été. Je te disais, cette année pour nous c'était une année de test. Parce qu'on avait complètement modifié le domaine, on avait une prestation de service plus étoffée, on avait changé aussi nos tarifs. C'est toujours un moment très délicat de se dire, bon, bah voilà, on détermine tel prix pour une chambre. Voilà, donc c'est vrai que le premier confinement, pour nous, on a eu un coup d'arrêt, c'est-à-dire que c'était censé être le début de la saison, là où enfin on allait avoir le retour des gens, savoir si, voilà, si le domaine leur plaisait, si on était d'équerre, voilà, dans les prix, dans les... Et puis, le premier confinement, paf, ça nous a un peu arrêté net. Et ça a très bien redémarré cet été. Donc, moi, ça a été ce qui m'a rassurée. C'est-à-dire que les gens étaient présents, même en période difficile, étaient contents des prestations, du lieu, de nous, de... Voilà, donc, c'est ce qui me rassure, en fait. C'est le retour de nos voyageurs, quoi. C'est le retour des gens, c'est le plaisir de les voir le matin détendus parce qu'ils ont bien dormi, contents parce qu'ils ont bien mangé au petit-déj. Voilà, c'est des choses comme ça, moi, qui au quotidien me rassurent.
La grille tarifaire, justement, dont tu parlais, comment vous avez travaillé pour l'élaborer? Sur quelle base vous vous êtes appuyé? Est-ce que tu as fait peut-être une étude de la concurrence?
Oui, on a regardé la concurrence. Après, c'est compliqué parce que ça dépend tellement aussi du lieu dans lequel on est, de la zone géographique. C'est très compliqué. Donc, on a essayé de mélanger un peu tout ça. Donc, la concurrence directe, les gens qui sont dans notre région, les gens qui sont dans d'autres régions. Et puis, voilà, on en a discuté avec nos amis aussi. Tu sais, ce fameux prix... pris au-delà duquel les gens, ouais, voilà, leur dire, bah voilà, vous vous retrouvez face à tel tarif, voilà. Et puis tout s'accumuler, on a essayé de sortir quelque chose d'un peu cohérent. A priori, on n'a pas eu de retour sur le prix cette année. On n'a pas eu de retour désagréable du genre, c'est un peu cher pour ce que c'est, donc c'est super. Le petit commentaire sympa qu'on aime bien sur Booking, donc ça, on n'a pas eu, voilà, toujours. Donc voilà, on n'a pas fait d'études de marché en tant que telle, on n'a jamais fait de gros trucs comme ça. On a essayé d'être au plus juste et d'essayer d'être au plus logique en fonction de ce que nous on apportait ou pas pour déterminer le prix. Voilà, pour l'instant ça a l'air de correspondre, donc affaire à suivre l'année prochaine, mais...
Vous proposez également des cours de yoga, des massages. Est-ce que c'était une demande de la clientèle qui a donné naissance à ces nouvelles prestations ou c'était un désir de ta part de proposer ça?
Alors, c'était pas une demande de la clientèle, c'est tout simplement parce que nous, on fait du yoga, pas depuis des années, on en fait depuis à peu près 2 ans. Et puis, voilà, je me suis dit, pourquoi pas proposer aussi ce service à nos clients. Notre prof de yoga était bien évidemment partante, elle fait aussi des massages ayurvédiques, donc elle nous a dit, écoutez, moi, je suis OK pour partir aussi dans cette aventure avec vous. Et puis, du coup, on a une très grande maison, donc on a une pièce qui est dédiée au yoga, qui était dédiée au yoga pour nous. Et on s'est dit, en plus, on a l'espace pour, donc c'est top. Donc voilà, ça s'est fait aussi parce qu'on a rencontré la bonne personne et parce que nous aussi, on s'épanouit dans ces disciplines. Donc, et puis, il faut aussi dire que ça répond aussi à quelque chose de très tendance. Tant mieux, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Mais on répond aussi à une demande des gens aujourd'hui. Enfin, juste avant le deuxième confinement, là, on avait des demandes de massage à plus savoir comment répondre. Je crois qu'il y a un vrai besoin des gens en ce moment de détente, de retour aux sources, de voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres prestations que tu souhaiterais développer, que tu as prévu de développer à moyen terme?
Alors, en direction de nos clients, je pense que là, on est déjà pas mal. En tout cas, rien n'est prévu pour l'instant. Nous, on aimerait bien développer une activité un peu parallèle à l'activité de chambre d'hôte, qui serait plutôt des activités de location de la maison pour des shootings, des tournages, des choses comme ça. Là, ça y est, j'arrive à peu près à, même plus qu'à peu près, j'arrive, ça y est, à une configuration finale du domaine et ça y est, je pense qu'on est prêt aussi pour attaquer cette nouvelle aventure. Donc voilà, on est en train d'y travailler en ce moment et puis on espère que ça débouchera assez rapidement sur quelque chose.
Pour la communication, est-ce que tu as fait appel à un photographe et à un web designer pour tout ce qui est l'aspect site internet, logo et puis mise en avant de votre bien?
Alors, on a fait faire effectivement notre site internet par une graphiste qui fait également donc les sites.
Moi, j'ai adoré sur votre site internet, je le trouve vraiment très beau, votre site internet, et j'ai adoré le plan avec tous les effets dessinés à la main, en fait, je trouve ça magnifique. La petite parenthèse.
Ben, merci. Merci aussi pour elle, parce que du coup, c'est notre graphiste qui les a fait. Donc, on a beaucoup bossé ensemble, on lui a demandé beaucoup de choses. Elle a toujours été super réactive et tu vois, les plans, je les avais dans ma tête et je lui en ai parlé 2 secondes. Elle m'a ressorti exactement ce que j'avais dans ma tête, donc ça, c'était super. Voilà, donc on a beaucoup bossé avec elle sur le site. Elle nous a fait aussi des photos au départ. Et puis après, je t'avoue que j'ai aussi pris du plaisir à faire des photos, notamment avec Instagram. Hein, ça, c'est assez addictif, hein, ce truc. Hein, moi, je trouve. Hein, et donc voilà, donc, alors pas vraiment de photographe. Je dis pas que ça va pas se faire. C'est pas impossible. Il faut juste trouver la bonne personne qui nous correspond bien. Voilà, mais pour l'instant, la communication, c'est que moi. Alors, c'est pour ça qu'il y a encore plein de choses à faire, parce que je m'y mets tout doucement, et que j'apprends aussi, parce que voilà, c'était pas mon activité initialement. Voilà.
Comment est-ce que vous mettez à profit ce deuxième confinement avec Gilles?
Alors, on aurait pu se reposer, mais non, on a décidé de faire des travaux dans la maison.
On est tous
parlés,
je crois.
On ne se repose pas beaucoup. Donc, voilà, on fait des travaux dans la maison. Et puis, tu vois, pour l'activité, même si on n'a personne, il y a des jolies choses qui se passent. Il y a notre échange ce matin. Il y a des personnes aussi qui nous contactent pour travailler ensemble. Donc, et puis, il y a toujours ces échanges Instagram aussi, qui j'en parle beaucoup, mais je trouve que ça permet aussi de garder un lien constant avec nos clients qui sont venus, qui vont venir, qui viendront peut-être un jour. Enfin, voilà, ça permet aussi de garder une vie au domaine pendant ces périodes un peu tristounes où on ne voit personne.
Quel souvenir te redonne immédiatement le sourire quand tu y repenses?
Et assez étonnamment, c'est les travaux. Alors que pourtant, quand on était dedans, je pense qu'il y a certains jours, on aurait bien eu envie de tout plaquer. Parce qu'en plus, il y a toute une tranche de travaux qu'on faisait en même temps d'être ouvert. Donc, on n'arrêtait pas. Et pourtant, quand j'y repense, eh ben, en fait, les moments sympas, c'est les moments, les heures de peinture, la musique à fond, justement, voir les choses se faire, en fait. C'est-à-dire qu'on les imagine pendant très longtemps dans sa tête, et puis tout d'un coup, on met une couche de peinture, puis ça commence à prendre forme, et puis un artisan qui passe, qui fait un truc, et on se dit « Ah bah ouais !» Et puis derrière, il y a Gilles qui pose la faïence, on se dit « Ah bah ouais !» Et tu vois, et en fait, finalement, c'est, bah, c'est ces moments-là les meilleurs. Je trouve dans toute la création, là, dans toute la mise en place de l'activité, ouais, assez étonnamment, ouais, c'est ces moments-là dont j'ai un très bon souvenir.
Quels sont les trois conseils que tu donnerais à un porteur de projet ?
Trois conseils que je donnerais à un porteur de projet. Alors, pour être très terre à terre, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut aller, quand on a besoin d'infos, il faut vraiment aller voir les bonnes personnes. Même si on paie, une heure d'honoraire avec un avocat, je pense que ça les vaut mille fois, vraiment. Parce que c'est des personnes qui vont vraiment donner des informations très précises sur le statut de la personne, quoi. Et ça, pour avoir côtoyé un peu les chambres de commerce, on a de l'info, mais je trouve qu'on a de l'info très, très générale et pas toujours adaptée à sa situation. Peut-être de se faire confiance, d'aller au bout de son projet, de ses envies, de pas toujours écouter les gens autour de soi, sauf quand ils ont des bonnes choses à vous dire. Mais
justement, est-ce que vos familles vous soutenaient quand vous leur avez annoncé, bon ben, on rachète ce superbe domaine, on va tout faire en travaux, on va faire des visites?
Oui, alors on a une famille et des amis sympas, donc ils nous ont tous soutenus, mais on sentait bien que certains se disaient quand même c'était peut-être un peu risqué, que moi je quitte mon job, que avant même que les travaux soient faits, que voilà, on n'a jamais eu de gens qui nous ont dit « vous faites n'importe quoi », et heureusement, et c'est aussi pour ça que c'est nos amis, mais oui, on a pu sentir certaines réticences. Alors, c'est vrai que le milieu du gîte et de la chambre d'hôte, c'est des choses qui se professionnalisent vachement. Donc les gens commencent à changer un peu d'état d'esprit sur ce type d'activité. Mais il y a encore 4-5 ans, il y a certaines personnes quand même qui se demandaient ce que j'allais faire de mes journées, qui ne prenaient pas vraiment conscience du travail que ça représentait et du fait que c'était un vrai métier. Donc c'est vrai qu'il y a encore quelques années, ouais, je me suis des fois retrouvée en face de gens, alors pour le coup pas des amis mais des gens d'extérieur qui me demandaient clairement mais qu'est-ce que je pouvais bien faire de mes journées. C'est pas évident, donc ces gens-là faut pas les écouter, faut écouter que les gens qui vous soutiennent, puis il faut surtout s'écouter soi-même et puis foncer, quoi. Si on est, voilà, de toute façon il faut tenter l'expérience, et puis il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. C'est quand même des choses qui tendent à se développer beaucoup, je pense, sur les années à venir. Donc voilà, il faut tenter sa chance.
Je voulais savoir si tu pensais que la pandémie allait un peu changer nos modes de consommation, notamment face au tourisme, et si ça pouvait déclencher la création d'autres gîtes ou de maisons d'hôtes, ou en tout cas l'envie auprès de... d'autres personnes.
La pandémie, alors nous, on a eu la chance de bien travailler cet été. Alors on a d'ailleurs pas forcément eu plus une clientèle française que d'habitude. On a une clientèle européenne qui a été assez importante cet été. En revanche, les canaux de de distribution, mais en tout cas les gens sont venus vers nous de manière différente, c'est-à-dire que les années passées on était quand même très très dépendant des plateformes de réservation, cette année beaucoup moins, les gens sont beaucoup plus venus en direct, parce que je pense que les gens cherchaient peut-être des choses qui leur correspondent plus, plus intimistes, plus proche des gens. Je pense que c'est en ça que, j'espère, que la pandémie va changer les choses. Tu vois, de venir vers des choses un peu plus à taille humaine, voilà, où il y a un véritable échange avec, avec les personnes, je pense.
Je pense aussi qu'ils prennent conscience qu'en passant par des plateformes, forcément, ben, y a des commissions et il y a une part de revenus qui ne vient pas dans notre poche. Et c'est aussi une façon de nous aider encore plus en soutenant notre travail que de passer en direct.
Complètement.
Lise, comment les auditeurs peuvent-ils te contacter ?
Oh, par plein de moyens. téléphone, mail, réseaux sociaux, par plein de biais, le site internet. Si on veut trouver le domaine de l'hostellerie, normalement, on le trouve, il n'y a pas de problème.
Tu prononces le S. J'ai mal prononcé tout l'interview, mince. L'hostellerie.
C'est pas grave. L'hostellerie, mais c'est pas grave.
C'est comme dans le Lot aussi, on prononce toutes les lettres. Mais voilà, je pensais que c'était un S muet, mais je suis désolée.
Non, mais c'est pas grave. Non, ne t'excuse pas, il n'y a pas de souci.
Bon, alors, pour conclure cette interview, j'ai une petite tradition. J'ai encore deux dernières questions. La première est, quel gîte ou maison d'hôte te fait rêver et te donne envie de partir en week-end ?
C'est super dur, cette question. Il y en a plein.
Il faut choisir.
Il y en a plein. Alors, tu vois, je me suis dit, du coup, faut que je trouve... je me suis dit, du coup, je vais rester en Normandie, comme ça, parce qu'il y en a, tellement, tellement. Et en plus, comme en ce moment, on a envie de partir avec mon mari, parce qu'on n'est pas parti depuis longtemps et qu'on a besoin d'air un petit peu, on s'est dit, ce serait bien qu'on parte et pas trop loin. Et j'avoue que on a nos collègues normands, la Maison Plume, qui... Voilà, ça nous fait de l'œil.
Ah oui, ça fait de l'œil à tout le monde.
Parce que, ouais, c'est pas très loin. Et je pense que si on n'arrive pas à déconnecter là-bas, je pense qu'on n'est pas bon pour la déconnexion, quoi. Je pense que c'est nous qui avons un problème.
Oui, c'est une cause perdue, alors.
Voilà, exactement.
Alors, ma seconde question, c'est quel titre de musique représente le mieux ton parcours ou même l'état d'esprit du domaine ?
Ouais, alors du coup, j'ai cherché, hein, tu vois, représente mieux le parcours, c'est impossible. j'ai pas trouvé, je me suis dit non, laisse tomber. Alors avec Gilles, et je vais t'épargner les titres, mais alors on a bien rigolé parce qu'on avait trouvé des trucs bien pourris, hein, il faut le dire. Mais je me suis dit non quand même. Donc du coup, on a, ouais, ça sera plutôt une chanson qui nous ressemble, en tout cas qui nous donne du peps. Quand on en a besoin. Et alors en plus, c'est une chanson de Stevie Wonder. Le titre est long et j'ai un anglais désastreux. Mais voilà, il faut que je te dise le titre, du coup, j'imagine. Voilà, merci beaucoup. Et donc, sa chanson, c'est Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Voilà, je suis vraiment désolée pour mon mauvais anglais. Mais voilà, cette chanson nous donne du peps. Voilà.
Oh, génial. Bon, il est déjà temps de se dire au revoir. Un grand merci, Lise, pour ton temps et ce témoignage super joyeux et sincère.
Merci à toi.
C'était un réel plaisir de t'interviewer et je souhaite à Gilles, Noé et toi une belle continuation et je vous dis à très vite.
Merci beaucoup. À bientôt.
Les clés du gîte, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et nous laisser non pas une, ni deux, ni trois, mais 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Nous sommes impatients de vous retrouver sur les réseaux sociaux @lesclésdugite pour connaître vos réactions et en discuter avec vous. Rendez-vous sur le site internet lesclésdugite.fr pour suivre notre actualité et retrouver toutes les notes de l'épisode et bien plus encore. À très vite !